Chers amis, nous allons ouvrir notre Bible pour lire plusieurs passages. Le premier dans le livre de Daniel, au chapitre 1er. Nous allons lire essentiellement pour ce matin les versets 8 et 9. Daniel chapitre 1er, versets 8 et 9, nous réservons les versets 10 et suivants pour cet après-midi. Je lis donc dans le verset 8, Daniel chapitre 1er. Daniel décida dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. À la fin de l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Zacharie, l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant que viennent donc l'évangile selon Matthieu, Zacharie, Malachie, Matthieu, Zacharie chapitre 14, les derniers versets de ce livre et de ce chapitre, Zacharie 14, les versets 20 et 21, Zacharie 14, 20 et 21, des versets qui ne sont pas encore accomplis, qui appartiennent à l'avenir prophétique d'Israël qui souffre tant en ce moment. Je lis au verset 20, « En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel, et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. » Et puis enfin, dans la première épître de Pierre, vers la fin du Nouveau Testament, nous avons lu hier soir, au chapitre 2, les versets 13 et suivants, je vous rappelle, et je le dis aussi pour ceux qui nous ont rejoints ce matin, le contenu des versets 15 et 16, 1 Pierre 1, versets 15 et 16 tout d'abord, 1 Pierre 1, 15 et 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Et au chapitre 3, à partir du verset 10 et jusqu'au début du verset 15, nous lisons chapitre 3, 10 à 15 A, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Nous réservons aussi la suite de ce verset pour cet après-midi. « Je vous rappelle que nous abordons en réalité non la deuxième de nos études, mais la sixième de nos études, puisque nous avions déjà rendez-vous ensemble en décembre pour analyser d'une manière toute particulière les sept premiers versets de Daniel chapitre 1er. Je résume très brièvement, comme nous l'avons d'ailleurs fait hier soir, pour que nous puissions reprendre aisément le train en marche. Et je résume en rappelant ces bouleversements internationaux qui secouent le monde antique vers la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ces empires qui s'effondrent, empire assyrien, empire égyptien, et cet empire qui s'élève, l'empire chaldéen ou néo-babylonien qui nous intéresse. Redistribution générale des cartes de l'histoire en matière de géopolitique. Et au cœur de cette redistribution des cartes, inscrite dans le plan d'un Dieu parfaitement souverain, un tout petit pays, déjà exsangue, déjà partiellement, en grande partie même amputé, 10 de ses tribus sur 12 ont déjà disparu, partiellement et en grande partie même rayés de la carte, en déportation, en Assyrie, 722-721 avant Jésus-Christ. Et la déconfiture, la décrépitude, la dégénérescence est profonde dans le peu qu'il reste autour de cette capitale provinciale qu'est Jérusalem. Et c'est là, dans sa souveraineté, que Dieu va intervenir dans l'histoire de l'Empire babylonien en suscitant un jeune homme au sein d'une équipe de 4, le jeune Daniel, pour devenir un puissant témoin de sa part, pendant des dizaines d'années, au moins 70 ans, auprès d'au moins 5 grands souverains de cette époque. Et nous assistons ici, dans le début du livre de Daniel, à l'aurore de ce que nous connaissons de la vie de ce jeune homme. Âgé de 17-18 ans maximum, il devient, avons-nous dit, l'innocente victime de ces bouleversements internationaux de l'époque. Il change de statut d'homme libre qu'il était, il devient prisonnier de guerre, et il part loin de sa patrie, loin de sa culture, loin de sa famille, mais non loin de son Dieu, parce que Dieu part avec lui, c'est là toute la différence. Et il se retrouve transplanté dans une terre étrangère, dans la grande capitale de ce monde d'alors, capitale absolument prestigieuse qui porte un nom, Babylone la Grande. Et nous avons découvert longuement en décembre les caractéristiques principales de cette vaste cité, cité orgueilleuse, capitale de l'occultisme mondial, cité violente et corrompue. Et nous avons vu ces 4 jeunes gens qui sont face au rouleau compresseur babylonien. On leur impose des noms païens. On tente d'opérer une sorte de naturalisation forcée, de modifier leur comportement, leur personnalité. On les place devant la nécessité d'étudier toutes les matières enseignées à l'université de Babylone. Et dans ces matières, il en est qui leur donne froid dans le dos. Tout ce qui a trait notamment à l'occultisme et qui occupe une grande place dans la formation universitaire des futurs cadres de l'État. Et puis ils sont enfin, et ce n'est pas le moindre mot, ils sont livrés aux caprices d'un dictateur cruel qui fait trembler le monde. Et pourtant, l'esprit de Babylone ne va pas trouver de place dans leur esprit. Et nous avons analysé ensemble les raisons pour lesquelles cet esprit de Babylone n'a pas trouvé de place en eux. Tout simplement parce que ces quatre jeunes gens, à commencer par Daniel, avaient vécu une enfance et une préadolescence même, centrée sur les Écritures, à la cour royale de Juda à Jérusalem, au contact d'un réveil spirituel qui avait touché en particulier le roi, ses proches et d'autres personnages très influents. Après cette série de quatre études, nous en sommes arrivés hier soir au choix, choisir Dieu dans un monde moderne. Nous avons évoqué le monde moderne, nous avons évoqué la personne de Dieu, ce Dieu qu'il connaissait, nous avons essayé de pénétrer quelque peu ce que nous pouvons savoir de ce Dieu souverain, tellement puissant, extraordinaire, Dieu d'amour aussi, Dieu personnel également. Et puis nous arrivons, nous nous focalisons depuis hier soir sur cette expression, ce verbe « choisir ». Choisir. Et nous avons été confrontés hier soir avec la nécessité de choix, de prendre des résolutions. Et nous avons béni Dieu de ce que certains hier soir ont manifesté publiquement le désir de faire le choix de marcher avec Jésus-Christ. Nous avons vu que dès son arrivée à la cour, Daniel prend une décision courageuse, par souci d'obéissance à la parole de Dieu, par souci d'alignement de sa volonté sur les prescriptions du livre du Lévitique, sur ce qu'on appelle la loi mosaïque, qui tranche en question dans le domaine des règles alimentaires. On ne mange pas n'importe comment et n'importe quoi quand on appartient au peuple de Dieu. Nous avons vu aussi que Daniel refuse de participer à tout ce qui peut s'apparenter à l'idolâtrie, au culte des divinités païennes. Or, les repas de ce genre étaient associés à toutes sortes de consécrations aux idoles. Le jeune Daniel refuse aussi d'être solidaire de la corruption, de l'immoralité ambiante, des orgies, des beuveries qui président à ces repas généralement. Et puis enfin, nous avons vu que dans la mentalité orientale, partager un repas, surtout entre vassals au pied du suzerain, c'est s'inscrire dans une alliance, c'est faire un pacte, c'est se placer résolument, nous dirions aujourd'hui, dans la poche de celui qui nous invite, c'est lui dire qu'on se soumet de manière inconditionnelle à lui. Cela, le jeune Daniel ne le veut pas. Pas d'engagement inconditionnel à l'égard du petit Seigneur. Mon engagement est inconditionnel à l'égard du grand Seigneur, de mon Dieu souverain. Daniel refuse donc tout net de pactiser avec l'esprit babylonien. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. Et à partir de là, après avoir évoquer un certain nombre de principes généraux sur lesquels je ne veux pas revenir pour aller plus loin, nous avons commencé à considérer cette vocation qui était d'abord celle de Daniel et de ses compagnons, mais derrière eux celle du peuple d'Israël, et qui est devenue celle de l'Église de Jésus-Christ, à savoir une vocation de sainteté. Choisir Dieu dans un monde moderne, avons-nous dit hier soir, c'est choisir la sainteté. Mais comme nous l'avons fait remarquer, Le mot saint, comme de nombreux mots des Écritures, font partie de ce vocabulaire dont nous flairons généralement le sens, sans être tout à fait certains du bon contenu. Voilà pourquoi nous sommes réunis ensemble de manière à essayer de comprendre ce qu'est la sainteté. Qu'est-ce que l'Église au titre de rassemblement des saints? Ce mot tellement essentiel dans les Écritures puisqu'il y figure plus de 600 fois à lui tout seul. Dieu est saint, avons-nous dit. Saint, saint, saint et l'Éternel. Voilà ce qu'entendra le prophète Ésaïe dans les premières années de son ministère, alors qu'en vision, il sera transporté dans le sanctuaire, dans le temple de Jérusalem, bouleversé au contact du rayonnement extraordinaire de la gloire du Dieu, du Seigneur, de Jésus-Christ, parce que le Nouveau Testament nous annonce que ce que Ésaïe a vu dans Ésaïe 6, en réalité, c'était le Seigneur Jésus dans sa gloire. Saint, saint, saint et l'Éternel des armées. Trois fois saint. On ne peut pas dire mieux. Il n'existe pas d'expression plus forte dans la culture du peuple hébreu, dans le langage du peuple hébreu pour exprimer une valeur. Dire trois fois saint, c'est parler de l'absolu. C'est le superlatif le plus extraordinaire qui puisse exister. Quand un juif veut dire quelque chose et l'affirmer avec la force la plus absolue, il suffit qu'il le répète trois fois. Or, à ma connaissance, le mot saint est le seul mot des Écritures appartenant à une qualité de caractère qui figure trois fois de suite dans les Écritures. Comme pour dire que par-dessus tout, si Dieu est amour, c'est parce qu'il est saint. L'amour de Dieu, nous le verrons cet après-midi, découle de sa sainteté. Il faut être véritablement saint pour pouvoir aimer comme Dieu nous a aimés. Mais qu'est-ce que c'est que la sainteté? Tout d'abord, nous avons dit hier soir qu'elle est purification. Elle sous-entend un nettoyage, un grand nettoyage. Parce qu'il y a un antagonisme violent, absolu, entre Dieu et le péché, aussi fort que celui qui existe entre feu et eau. Ils ne peuvent cohabiter. Lorsque Christ reviendra, avons-nous dit, il établira son règne. Et une des principales caractéristiques du royaume de Dieu, dans sa manifestation ultime, sera sa pureté parfaite. Et nous avons hier soir parcouru le Nouveau Testament, notamment les épîtres de Paul, pour aboutir à l'Apocalypse. Et nous avons vu que continuellement, Dieu se plaît avec une certaine solennité à affirmer que le péché sous toutes ses formes ne peut un seul instant pénétrer dans le royaume des cieux. L'Église de Jésus-Christ, ce sont donc des hommes, des femmes, qui ont changé de vêtements, qui ont endossé une nouvelle nature, un vêtement blanc, selon les termes mêmes répétés 11 fois dans le texte de l'Apocalypse. Un vêtement qui n'appartient pas à leur garde-robe. Il n'est pas dans nos maisons. Il n'est pas dans nos commodes. Il n'est pas dans nos armoires. Il n'est pas chez le tailleur du coin. Ce vêtement n'appartient pas à ce monde. Il n'est pas de cette terre. Il n'est même pas d'une planète au-delà de cette terre. Ce vêtement n'existe que dans les cieux. Ce vêtement, en réalité, est une personne. Dieu lui-même, en Jésus-Christ. Jésus-Christ dans sa pureté, dans sa sainteté parfaite, telle qu'elle s'est prouvée tout au long de son ministère sur la terre parmi les hommes. Pureté, sainteté, totalement agréée de Dieu. Si Jésus n'avait pas vécu de manière parfaite, il serait resté dans la corruption du tombeau, où il se serait corrompu dans le tombeau, puisqu'il n'a pas connu la corruption. La résurrection de Jésus est la preuve que Jésus a été reconnu par le Père comme n'ayant jamais péché. Et c'est de son manteau, de sa justice, de son impeccabilité parfaite que nous avons besoin d'être revêtus. Il n'y a dans le ciel pas de rouille, pas de niel, pas de mythe, rien qui puisse s'attaquer aux vêtements de blancheur immaculée du Seigneur Jésus. Et lorsque nous nous tournons vers lui, lorsque nous venons à la croix, où il est devenu, avons-nous dit hier soir, notre bouclier thermique, où il est littéralement entré en fusion, comme ces boucliers spatiaux de navettes, n'est-ce pas, entrant au contact de l'atmosphère dans sa forte densité. Quand il est mort sur la croix, il est entré en fusion pour que nous trouvions à l'abri de ce bouclier protecteur le salut dont nous avons besoin, que nous puissions pénétrer à notre tour dans la présence de Dieu sans être littéralement foudroyés sur place à cause de notre péché. Un bon nombre d'entre nous, nous avons été acquittés, innocentés, justifiés, déclarés justes, considérés comme si nous n'avions jamais fauté, parce qu'à un moment donné précis de notre vie, nous avons fait un choix. Nous avons donné à Christ notre vie. Il nous a justifiés et il nous a sanctifiés. Et c'est ce qui va nous intéresser maintenant, parce que si la sainteté est purification de notre conscience et des œuvres mortes de notre conscience, afin que nous servions le Dieu vivant et vrai, la sainteté va plus loin encore. Elle est aussi sanctification, dans le sens de séparation. Sainteté, séparation. Voilà ce qui va nous intéresser maintenant, jusqu'à la fin de notre matinée. Sainteté, purification d'une part, sainteté, sanctification, séparation d'autre part. Si nous avions eu le privilège de pouvoir parcourir le tabernacle planté dans le désert, si vous avez eu ce privilège d'aller voir ce tabernacle, peut-être en Suisse par exemple, sur les hauts de Lausanne, lorsqu'il était planté dans l'enceinte de la Ligue pour la lecture de la Bible, il y a quelques années, vous vous êtes peut-être rendu compte d'une chose. C'est que quand on entrait dans le tabernacle, et notamment dans le lieu très saint, ce qui était réservé au souverain sacrificateur une fois l'an, ceci en prenant de très 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 grandes précautions, que voyait-on autour de soi ? En dehors du voile, on voyait des murs. C'était des murs de bois imputrescible, qui était tout un symbole, mais qui avait ceci de particulier, c'est qu'ils étaient revêtus. On avait mis, surtout plus tard, de l'or, mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passait lorsqu'on regardait au sol. Quand on regardait au sol, on voyait du sable. On voyait le sable du désert. Il n'y avait pas de plancher. Plus tard, dans le temple de Salomon, il y aura un plancher, mais pas dans le tabernacle. C'est-à-dire qu'à tout moment, tous ceux qui officiaient dans le lieu saint pour les sacrificateurs ou dans le lieu très saint pour le souverain sacrificateur une fois l'an, il leur suffisait de regarder à terre pour être ramenés à la réalité si cela s'était avéré nécessaire. Je ne suis pas encore dans le ciel. Je suis encore sur la terre. Le sol que je foule, le sable que je foule, c'est aussi le sable qui se trouve au dehors. C'est aussi le sable que foulent tous ceux qui m'entourent. C'est aussi le sable que tout à l'heure je foulerai lorsque je me retrouverai parmi les miens, dans le campement. Jésus l'a dit lui aussi d'une manière très claire dans la prière dite sacerdotale, juste avant d'aller vers Gethsémané pour y être arrêté et être traduit ensuite devant ces tribunaux tellement iniques qui l'ont condamné dans cette nuit obscure. Jésus l'a dit dans la prière sacerdotale. Ils sont dans le monde. Ils ne sont pas du monde. Ils n'appartiennent pas à ce système. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te supplie, Père, préserve-les du mal. Préserve-les du mal dans le monde. Daniel et ses compagnons sont dans la grande Babylone, mais ils ne sont pas de la grande Babylone. Ils sont comme une sorte d'îlot de sainteté au sein de la corruption. Ils sont en quelque sorte des reflets de la beauté de Dieu dans le monde de Satan. Ils sont, oh pardon de le dire ainsi, comme une sorte de lys qui fleurirait au milieu d'un tas de fumier. Ils sont traversés par la lumière de Dieu. C'est là un des beaux sens de la sainteté. Ils sont transparents, ils sont différents. D'ailleurs, faut-il le dire, c'est là le sens originel du mot sainteté. Être saint, c'est être séparé, c'est être mis à part. Dieu est saint parce que, si vous voulez, il est aux antipodes. Il est totalement autre. Il est unique. Il est différent. Oh, c'est très important ceci. Dans cette fin de siècle vouée au nouvel âge et à toutes sortes de réflexions, de pratiques de type oriental où le monde est vu dans une conception totalement différente de la Bible. Dire que Dieu est saint, c'est dire, par exemple, que Dieu ne se confond pas avec sa création. D'un côté, il y a le Dieu créateur, et de l'autre, il y a sa création. Nous ne sommes pas panthéistes, nous ne sommes pas monistes, nous ne disons pas « il y a en moi une étincelle de Dieu ». Il n'y a pas en moi d'étincelle de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu, mais ça ne veut pas dire la même chose. Il y a effectivement, dans notre intelligence, dans notre esprit créatif, même dans, je dirais, la beauté complexe, extraordinaire de l'être humain, au moment, par exemple, de sa naissance, il y a des signes de l'extraordinaire intelligence créatrice de Dieu. Mais néanmoins, il n'y a pas en moi d'étincelle divine. Il n'y a pas en moi de fluide divin. Je ne fais pas partie de Dieu et Dieu ne fait pas partie de moi. Je me refuse à dire que Dieu est tout et que tout est Dieu. La Bible dit que Dieu est saint, cela veut dire que Dieu est séparant. Il est totalement autre, il est aux antipodes. Et cela veut dire aussi que, comme nous l'avons lu tout à l'heure,
Si Dieu dit, vous serez saints parce que je suis saint, nous sommes appelés, vous et moi, à être comme Dieu. Non pas à être des dieux, mais à être comme Dieu. C'est-à-dire, à notre tour, à être séparés, à être des gens uniques, des gens différents. Nous sommes, en tant qu'Église de Jésus-Christ, un peuple séparé, un peuple unique au monde, un peuple différent de tout, un peuple irréductible. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de vocation plus fantastique que celle d'aller vers cette ressemblance à ce Dieu totalement autre. Je sais, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, que je suis totalement autre, totalement différent, dans la mesure où je le montre. Nous allons y venir. Daniel ne voulait pas laisser l'esprit babylonien s'introduire dans sa personnalité. C'est celui qu'on appelle saint Augustin, Augustin d'Hippone, qui a écrit ceci: « Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais nous pouvons les empêcher de construire leur nid sur notre tête. » Vous le savez, je ne vous apprends rien, le monde et son atmosphère polluée nous enveloppent de toutes parts. Nous ne pouvons pas l'en empêcher, mais nous pouvons empêcher le péché, empêcher le péché de s'introduire, de se nicher en nous. Ce que Dieu voudrait, c'est qu'il y ait dans nos vies davantage de haine à l'égard du péché. Moins de collusion, moins d'amitié, moins de côtoiement trop proche entre le péché et nous. Quelqu'un a écrit ceci: le péché est une présence explosive et toute puissance s'étiole et disparaît dans sa chaleur destructrice. Chaque délice spirituel est vaincu par son toucher malveillant. Le péché affaiblit la vision et conduit à l'aveuglement. Le péché engourdit lui et tend à rendre les hommes sourds. Le péché pervertit le goût, amène les hommes à confondre le sucré avec l'amer et l'amer avec le sucré. Le péché durcit le toucher et tôt ou tard rend un homme insensible. Le péché bloque et étouffe les sens délicats de l'esprit. À cause du péché, nous devenons insensibles et perdons toute perspicacité. Le péché engendre l'endurcissement, il anéantit ainsi notre sensibilité à la douleur. Vous savez qu'un certain nombre d'hommes de loi, de hauts magistrats en particulier, portent l'hermine sur leur manteau, sur leur robe. L'hermine. Ô petit animal intéressant, essentiellement trouvé dans l'Europe du Nord. Et pourquoi ces magistrats portent-ils de l'hermine? Sinon simplement à cause de la réputation de ce petit animal, à la fourrure blanche, immaculée. Lorsque les chasseurs veulent capturer l'hermine, ils n'utilisent pas de lacets, ils n'utilisent pas de fusil, ils n'utilisent pas de piège particulier de peur d'abîmer cette fourrure délicate. Ils connaissent simplement la réputation de cet animal, son refus le plus absolu de se souiller, son dégoût de la boue, de tout ce qui est sale et nauséabond. Alors il repère simplement le trou, l'endroit où l'animal gîte, et lorsqu'ils ont trouvé le terrier, ils en enduisent l'entrée, une partie de l'intérieur, de glaise, de boue, voire d'autres produits. Et ils attendent, ils lâchent leurs chiens. Les chiens rabattent l'animal jusqu'à son terrier. Lorsque l'hermine arrive à l'entrée du terrier, elle découvre la saleté qui y règne. Alors, elle préfère sacrifier sa vie plutôt que d'entrer dans un terrier sale, de peur d'abîmer sa fourrure. Voilà pourquoi l'hermine est devenue symbole de probité, d'intégrité, de droiture, qui devrait toujours être dans le monde de la loi et de la magistrature. Préférer dans nos vies avoir à souffrir pour rester sain. Maintenant, quelques caractéristiques concernant cette séparation, parce que sans doute jusque-là, un certain nombre d'entre vous étaient d'accord avec moi. Vous dites, mais oui, nous savons cela. Il est effectivement question de séparation. Nous l'entendons, et nous l'entendons, et nous l'entendons encore. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que cette séparation a un certain nombre de caractéristiques, et j'aimerais les voir avec vous. Tout d'abord, il nous est dit dans Daniel 1:8, vous avez remarqué comment nous avons lu ce verset dans notre introduction. Il nous est dit dans Daniel 1:8, Daniel, littéralement, je lis d'après le texte original, Daniel décida ou prit la résolution dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Dans son cœur. Daniel arrêta dans son cœur. Ou encore, Daniel prit à cœur. Je bénis Dieu pour cette petite précision. Parce que cela signifie que la sainteté, sous forme de séparation, d'ailleurs et de purification, doit venir de l'intérieur. Elle doit venir du quartier général de notre personne. Elle doit venir des profondeurs de l'être. Elle doit venir de mon intelligence, de ma réflexion, de ma volonté, de mes affections, de tout ce qui constitue ce que la Bible appelle le cœur. Non pas ce cœur qui a des raisons que la raison ne connaît pas et qui n'est que sentiment, mais véritablement ce cœur qui est le centre de ma personne, qui est vital, aussi vital que l'est notre pompe. Même si elle dépend pour son fonctionnement du cerveau, notre cœur dépend pour son fonctionnement spirituel de ce cerveau qu'est Dieu en Jésus-Christ, la tête. C'est dans le cœur que ça commence. Quand le roi Ézéchias est arrivé dans son règne, parce que c'était un bon roi qui succédait à un mauvais roi, il a pris la décision de faire du nettoyage dans le temple de Jérusalem. Le temple et ses environs et tous ses parvis étaient dans un état absolument lamentable. C'était écœurant ce qui s'était passé dans l'enceinte de ce sanctuaire. Lorsqu'Ézéchias a fait donner des ordres pour qu'on nettoie le temple, il n'a pas dit « Vous commencerez par le parvis, vous irez ensuite dans le lieu saint et vous terminerez par le lieu très saint. » Il n'était pas question de procéder à la purification du temple en allant de l'extérieur vers l'intérieur. Non pas. Ézéchias était un homme de Dieu. Il connaissait les Écritures et il savait que la sainteté va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Il a donc dit aux sacrificateurs, aux lévites, à tous ceux qui étaient en charge de ce travail, vous irez d'abord à l'intérieur. Vous commencerez par le lieu très saint et vous terminerez par le parvis. Parce que c'est ça la sainteté. Elle commence à l'intérieur, elle va vers l'extérieur. Et c'est d'ailleurs très logique. Quand Jésus s'adressait à ses disciples qui se prenaient parfois pour des anges, qui croyaient qu'ils avaient quelques ailes qui leur poussaient dans le dos puisqu'ils vivaient avec un si bon patron, Jésus de temps en temps les remettait, les rappelait à l'ordre. Et il leur disait, vous savez, ne vous faites pas trop d'illusions sur vous-même. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, l'orgueil, la folie. Oh, il les ramenait très vite à la juste réalité de leur état intérieur. C'est du cœur que viennent, disait Jésus, Marc 7, versets 21 à 23. Il n'y a pas de sainteté véritable sans que notre cœur soit d'abord visité, sans que notre cœur soit d'abord changé, sans que nous ne connaissions dans notre vie une véritable transplantation cardiaque spirituelle. Le prophète Ézéchiel l'avait annoncé en des termes très très forts, Ézéchiel 36, 25, 27. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et pour que cela soit possible, Ézéchiel ajoute, je mettrai mon esprit en vous. Parce que ça ne peut pas être possible autrement. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui opère cette transplantation cardiaque. C'est un miracle extraordinaire. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu s'engage. Il dit, je ferai en sorte. Non pas je vous donne des ordres et puis débrouillez-vous. Je vous jette à l'eau et puis tant pis, apprenez à nager. Pas du tout. Je ferai en sorte. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient habiter dans une vie, dans un cœur, c'est lui qui donne la pleine capacité de vivre cette vie nouvelle. Et qui donne la pleine capacité de sainteté. J'ai sous les yeux une citation très intéressante puisqu'il s'agit de la citation d'un prêtre de la synagogue de Bethléem, tenez-vous bien, au premier siècle de notre ère. Et ce prêtre de la synagogue de Bethléem envoie au premier siècle une lettre au Sanhédrin de Jérusalem, c'est-à-dire au tribunal, au grand conseil juridique de Jérusalem. Voilà ce qu'il écrit dans cette lettre. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne de Dieu en nous, c'est d'abord ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit commencer en nous, dans notre vie intérieure, et y régner. Ensuite, du plus profond de notre être, jailliront toutes nos actions en conformité avec les enseignements et commandements révélés par Dieu. Et il ajoute, jusqu'à ce que l'extérieur soit semblable à l'intérieur. Et c'est ainsi que se fera la progression aussi des individus jusqu'aux nations. Bon, je pense à ce petit garçon âgé de 4 ans qui n'aimait pas beaucoup le savon et l'eau. Et nous sommes tous passés par là. Alors quand ça... maman lui débarbouillait la frimousse, et puis vous savez qu'il y a toujours des risques d'avoir un petit peu de savon dans l'œil quand on n'en a pas envie, et ailleurs, et qu'elle allait dans ces trous un petit peu délicats à visiter, le petit garçon protestait vigoureusement, et un jour elle tenta de le raisonner en disant « Mais est-ce que tu veux être propre, oui ou non ?» Et le petit garçon de répondre, oui, 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 mais si tu peux simplement m'épousseter, si tu peux simplement m'épousseter, ce n'est pas cela, la sainteté. Ce n'est pas un époustage. C'est un changement en profondeur dans les racines de l'être. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas à la surface. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde à nos motivations profondes ce matin, bientôt ce midi. L'Éternel regarde à nos motivations profondes. Il ne regarde pas au fait que nous soyons assis pieusement sur une chaise à l'écoute d'un message dans un lieu qui est réputé comme étant un lieu religieux. C'est pas cela d'abord qui l'intéresse.
Mais ce qui l'intéresse, c'est que notre position assise sur nos chaises et dans ce lieu soit en harmonie avec une position intérieure. C'est-à-dire qu'avant d'être assis sur notre chaise ici, il faut que nous soyons en quelque sorte assis dans le Seigneur. C'est mon assise intérieure, ma position intérieure en Christ, qui doit se refléter à l'extérieur. L'Éternel regarde au cœur. Est-ce qu'il en est ainsi dans notre vie? Si mon cœur n'est pas visité, si mon cœur n'est pas changé, si mon cœur n'est pas habité par le Saint-Esprit après avoir été purifié par le sang de Jésus, parce que vous savez que l'huile du Saint-Esprit ne vient qu'après le sang de Jésus. Il faut que le sang de Jésus passe d'abord, alors l'huile du Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit ne peut pénétrer qu'une coupe qui a été purifiée au préalable. Mais je sais très bien que si mon cœur n'a pas été visité, je ferai des mauvais choix. Je ne pourrai pas m'en empêcher. C'est pour cela que même après un bon culte du dimanche, même après une bonne série de réunions, même après une bonne retraite, une bonne convention, un bon camp de famille ou que sais-je encore, on peut être dans un très profond désespoir dans l'heure qui suit. Parce que nous n'avons pas encore accepté que le Seigneur touche notre cœur. Parce que nous n'avons pas encore accepté qu'il y ait cette transplantation cardiaque. Parce que nous avons peut-être tout simplement encore des mauvaises conceptions de la sainteté. Parce que tout au long de l'histoire de l'Église, on a accumulé les caricatures de la sainteté. Et ces caricatures sont venues jusqu'à nous, au point que dans nos églises évangéliques, parce qu'on vit trop au flair, au lieu de rechercher vraiment ce que la Bible dit, nous avons de fausses conceptions de la sainteté. J'en veux pour exemple le parti des pharisiens. C'est champion de la sainteté de toutes les époques. Parti né au deuxième siècle avant Jésus-Christ, pour réagir contre ces juifs qui commençaient à copuler et à manifester toutes sortes de relations bizarres avec le monde hellénique, avec les Grecs. Alors certains juifs ont froncé les narines, les sourcils et tout le reste et ont dit « c'est pas possible, nous allons perdre notre identité, nous sommes un peuple différent, nous sommes le peuple de Dieu ». Il faut nous séparer. Et c'est ainsi qu'est né le parti des pharisiens, parce que farash, d'où vient pharisien en hébreu, veut dire séparer. Or, mes bien-aimés, vous savez comme moi, si vous lisez la Bible et si vous connaissez les enseignements de Jésus, vous savez que la sévérité de Jésus n'a jamais été aussi grande que lorsqu'il s'est adressé à qui ? Aux pharisiens. Que leur a-t-il dit ? Il leur a dit : votre problème, c'est que votre sainteté est formelle. Votre sainteté, elle est à l'extérieur. Mais le problème, elle n'est pas dedans. Vous avez fait des choses à l'envers et vous en êtes devenu de fierté orgueilleuse aveugle. Alors certes, quand on va vers vous, c'est un peu comme quand on va dans un cimetière vers une belle tombe. Le marbre est beau, il luit à tout casser, il est couvert de fleurs les plus extraordinaires qui soient, d'inscriptions merveilleuses comme on en donne à ceux qui sont morts parce qu'on a oublié de leur donner quand ils étaient vivants. Mais on oublie que à quelqu'un 1,50 m sous la dalle, c'est la pourriture. C'est le squelette dans tout ce qu'il peut avoir d'odieux qui crée répulsion. Voilà ce que Jésus disait des pharisiens, champion de la séparation.
mais une séparation qui était de l'extérieur, au lieu d'être d'abord de l'intérieur. Pharisien aveugle, purifie premièrement l'intérieur, afin que l'extérieur devienne pur. Matthieu 23, versets 25 et 26. Voyez-vous, cette séparation qui est si facilement nôtre, qui va de l'extérieur pour tenter, si possible, d'atteindre l'intérieur, fait de nous des illusionnés de la sainteté. Nous devenons durs avec les autres, nous devenons légalistes, nous leur imposons, parce que généralement, ceux qui réussissent ce genre d'exploit de sainteté extérieure sont des gens au fort caractère. Ils ont du tempérament que d'autres n'ont pas. Ils ont eu une éducation que d'autres n'ont pas eue. Ils ont été élevés peut-être à la dure. Alors ils peuvent se vanter de leur sainteté. Ils ont eu à traverser seuls des tempêtes et grâce à leur profil, ils ont pu s'en sortir. Alors bien entendu, ils écrasent les autres du haut de leur impeccabilité parce que ils n'arrivent pas à s'identifier à ceux qui n'ont pas eu le même genre d'éducation qu'eux, le même genre de tempérament qu'eux. Et lui dit, mais allons, allons, qu'est-ce que c'est que ces manières de côtoyer le péché? Regarde-moi! Et Dieu leur dit, vaste hypocrite, regarde un petit peu le fond de ton cœur. Tu n'as pas des mauvaises pensées? Est-ce que tu ne forniques pas dans tes fantasmes? Bien sûr, personne ne le sait. Mais sois donc un peu lucide. Est-ce que tu es si bien que ça? Nous pourrions continuer ainsi, évoquer tous les autres qui se sont succédés au fil des siècles. Les pharisiens, c'était depuis le deuxième siècle avant Jésus-Christ. Mais si nous passions, par exemple, aux dendrites, les dendrites, dendron, qui veut dire en grec arbre, les dendrites sont sans doute ceux qui ont fait croire à l'évolutionnisme, tout simplement parce qu'ils étaient des chrétiens ou pseudo-chrétiens qui, pour vivre la sainteté, séparation, s'installaient dans les arbres. Vous vous rendez compte? Ils allaient vivre dans les arbres comme les singes. C'était leur manière d'être séparés du sol et des humains. Et puis alors il y a, oh ça c'est mieux, il y a les stylistes. Les stylistes, c'est le 4e, 5e siècle de notre ère. Avec leur grand chef, leur leader, le fondateur de l'ordre, Siméon d'Antioche. Le styliste qui s'était installé sur une colonne à très peu de distance de cette ville extraordinaire d'Antioche et qui du haut de sa colonne contemplait la corruption ambiante de la cité d'Antioche, dont vous découvrirez d'ailleurs bien des aspects dans mon livre que je termine ces jours-ci. Antioche, notre homme contemplé, condescendant, du haut de son pilier, sur lequel, tenez-vous bien, il s'est tenu pendant 36 ou 37 ans. Et une quantité d'autres l'ont suivi. Ça devait être un spectacle extraordinaire de plus pour les citoyens d'Antioche. Et puis il y a ceux qui se sont enfermés dans des cages. On a suspendu ces cages au sommet des montagnes, dans les rochers. Et la promenade du dimanche consistait à monter pour voir ces hommes soi-disant saints qui chantaient des psaumes à tue-tête de toute leur âme, enfermés dans leur cage, prétextant que c'était la meilleure manière d'être saint, séparés. Ermite, anachorète, oh combien d'autres nous pourrions les aligner les uns après les autres. En 1403, ça s'approche de nous, n'est-ce pas? Un des hommes les plus riches de Paris mourut. Il laissait son héritage à sa fille Agnès, belle et jeune adolescente, vertueuse, que bien des hommes auraient aimé épouser. Mais voilà que Agnès, décidant de renoncer à sa fortune, partie vivre en ermite, et pour s'isoler de la société, elle demanda à être enfermée dans une cellule creusée à même le mur d'une église. Une fois enfermée dans son réduit, l'entrée en fut totalement plâtrée, à l'exception d'un petit trou par lequel on lui apportait de la nourriture. Et elle resta, tenez-vous bien, confinée dans cet espace restreint depuis l'âge de 18 ans jusqu'à sa mort. On peut vivre vieux dans un trou. 98 ans. 80 ans de sainteté, non selon les Écritures. 80 ans. Ça, c'est le diable. Ça, c'est la puissance des ténèbres. Ça, c'est la caricature, n'est-ce pas? Le diable essaye de prendre tout ce qui vient de Dieu et de le caricaturer. Alors, mes bien-aimés, l'église locale aujourd'hui est-elle vraiment sainte? Nous pouvons avoir une fausse conception de la sainteté en ayant tellement peur du péché que nous finissons par nous isoler des autres. Nos locaux peuvent aisément devenir des bocaux, mes amis. Si nous avons une mauvaise conception de la sainteté, nos locaux deviendront des bocaux. Nous nous enfermerons dans des ghettos. Nos églises seront des sociétés secrètes. Nous n'avons pas le droit de confondre fermeté en matière de sainteté et fermeture. Dieu veut que nous soyons fermes, mais Dieu ne veut pas que nous soyons fermés, parce que ce n'est pas la même chose. Certains se souviennent de ce que j'expliquais il y a 3 ou 4 ans à peu près. Lorsque je racontais cette histoire d'un journal régional qui avait organisé un concours destiné à découvrir dans le pays le citoyen le plus à cheval sur les principes, le plus sobre, le plus vertueux, et parmi les lettres adressées à la rédaction figurait celle-ci: je ne fume pas, je ne bois jamais d'alcool, je ne joue pas, ça en fait déjà beaucoup en moi, hein, ça, surtout en France. Je suis fidèle à mon épouse, alors là ça diminue encore sensiblement. Je travaille dur, je suis paisible et docile, je ne vais ni au cinéma ni au théâtre, ça en fait encore beaucoup moins. Je me couche tôt, alors là ça en fait très peu. Et je me lève à l'aube, là c'est un peu le cas de beaucoup. J'assiste à l'office tous les dimanches, alors en France c'est la dégringolade. Il y a 3 ans que je mène cette vie-là. Alors on s'apprêtait dans la rédaction de ce journal à préparer tout le nécessaire, la couronne, les lauriers, tout et tout. Quand on a lu, heureusement, la dernière phrase, la lettre se terminait ainsi: mais attendez, quand on m'aura relâché, il était en prison. Il y a des chrétiens, mes bien-aimés, qui sont en prison. Je le dis ici ce midi, ils sont en prison. Parce que pour eux, la sainteté, c'est ne pas aller au bal, ne pas aller au cinéma, ne pas voir la télé, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Mes amis, pardonnez-moi de vous le dire, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Il y a des gens dans le monde qui sont de meilleurs chrétiens que nous. Il y a des gens dans le monde qui sont plus fidèles que nous dans ce domaine. Si c'est ça le christianisme, et bien aimé, je le vomis. Et je n'hésite pas à le dire avec une certaine violence. Parce que ça finit par me sortir par le nez, par les oreilles, cette manière que nous avons de concevoir le christianisme comme une simple réduction à ce niveau-là. Il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour cesser de fumer. Il y a, hélas, des chrétiens qui fument et des païens qui ne fument pas. Alors, qu'est-ce que c'est que la sainteté-séparation ? La sainteté-séparation, c'est d'abord une sainteté-consécration. C'est là que nous voulions en venir. La sainteté-séparation, c'est d'abord une sainteté-consécration. C'est-à-dire que la sainteté, mes bien-aimés, ce n'est pas d'abord une sorte d'effort d'extirpation de tout ce qui est mauvais en moi. Quand on retrousse les manches en allant au jardin pour enlever les mauvaises herbes, hein, c'est pas ça. En réalité, la sainteté n'est pas d'abord une séparation contre. Je ne suis pas contre tout. Trop souvent, quand on pense à certains chrétiens, on a envie de dire la seule chose qu'ils savent faire, c'est d'être contre. Parce que chaque fois qu'on discute avec eux, ils vous disent « moi je suis contre ». Ah ben, est-ce que tu es pour quelque chose ou pour quelqu'un dans ta vie ? Tu es toujours contre. On n'a même pas de dialogue possible. On ne peut pas jeter de pont de communication avec toi. Tu n'écoutes jamais parce que tu es toujours contre. Moi, je me sens toujours condamné. Est-ce que Jésus était comme ça ? Croyez-vous que les publicains, les prostituées et les autres simples d'Israël seraient allés vers lui s'ils avaient eu en face d'eux quelqu'un qui était toujours contre ? Non. Et ça ne veut pas dire que Jésus vivait du compromis du matin au soir. Ces hommes et ces femmes à la conduite douteuse savaient très bien quelle était la qualité de cœur et de caractère de Jésus. Mais il émanait autre chose de sa personne qu'un message toujours contre. La sainteté, c'est une séparation mise à part. Pour. Pas pour l'Oasis, Église évangélique d'Olivet. Pas pour les églises membres de la Fédération évangélique de France. Pour le Seigneur. La sainteté, c'est une séparation pour le Seigneur. Quand le Seigneur remplit le cœur, mes bien-aimés, toutes les idoles disparaissent. Je pense à cette histoire absolument bouleversante de ce grand sculpteur des pays nordiques, Daneker. C'était un croyant convaincu, mais pas quand il commença à travailler à la sculpture d'une statue du Christ. Il travailla pendant 2 ans tout d'abord. Et au bout de 2 ans de travail de sculpture, il demanda à une fillette de venir voir son œuvre. Et il lui posa cette question, « Fillette, qui est-ce cette personne que j'ai sculptée ?» Et cet enfant de répondre à Daneker, c'est un grand homme. Alors le sculpteur, certain d'avoir manqué son but, prit son ciseau et besogna à nouveau pendant 6 longues années supplémentaires. Mais cette fois, il prit soin de lire et de relire les textes des évangiles pour bien se pénétrer du caractère de Christ et d'essayer de le rendre d'une certaine manière dans sa sculpture. Et au bout de 6 longues années, il invita à nouveau une petite fille à venir dans son atelier et lui posa la même question, « Qui est-ce ?» Et l'histoire raconte que cet enfant commença à verser des larmes d'émotion. Et elle balbutia, larmes aux yeux, simplement ceci, « Laissez venir à moi les petits enfants. » et Daneker confessa qu'il avait rencontré Jésus-Christ durant ses années de sculpture, parce qu'elles avaient aussi été des années de lecture permanente de l'histoire de Jésus. Et puis, sa célébrité s'accrut tellement que Napoléon lui commanda une statue de Vénus pour le musée du Louvre. C'était un insigne honneur pour ce sculpteur, une sorte de consécration internationale, que l'empereur lui-même lui demande ceci pour le musée du Louvre. Et pourtant, Daneker remercia poliment l'empereur en lui disant simplement ceci: « Je ne pourrai jamais faire une Vénus comme vous l'entendez après avoir regardé si longtemps le visage du Christ. » C'est cela la sainteté. Quand le cœur est rempli de Christ, croyez-vous qu'il y ait encore de la place pour autre chose? Faut-il absolument se défaire du monde avec énergie au moment où l'on vient à Christ? Moi, je dis non. Je dis simplement ceci: commencez à rendre un bon témoignage pour Christ. Commencez à vous nourrir de lui. Commencez à étudier sa parole, à vivre une vie de prière personnelle étroite avec lui, à obéir sur les points qu'il vous indique par le Saint-Esprit. Et mes amis, le monde se défera de vous. Vous n'aurez pas besoin de couper. Il coupera. Vous serez placé dans des situations où le monde, tous ceux qui ne veulent pas de Christ, vous le feront clairement savoir. Avez-vous déjà vu certains arbres qui n'ont pas succombé à toutes les rigueurs automnales, hivernales, dont les branches ont été secouées, secouées encore, et qui pourtant arrivent au printemps, portant encore, pour certaines espèces seulement, ces feuilles qui font un certain bruit lorsqu'on se promène en forêt et que le vent souffle. Elles ont tenu le coup, ces feuilles mortes, desséchées, dans lesquelles il n'y a plus une seule trace de sève. Pourtant, elles sont là. Mais elles ne sauraient résister à la montée de la sève. Ce que les tempêtes n'ont pas réussi à faire, ce que l'acharnement du vent et des éléments déchaînés n'ont pas réussi à faire, la sève, calme, vivifiante, irrésistible, montant peu à peu dans le tronc, puis de là dans les rameaux, va finalement le faire. Les feuilles de la vieille nature vont tomber pour laisser place à celles de la nouvelle nature. C'est cela la sainteté. C'est cela, c'est la sève vivifiante de Christ dans ma vie qui fait la différence. Vous souvenez-vous du jour où vous avez rencontré celui ou celle qui est devenu votre conjoint? Qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que vous avez serré les dents avec un rictus d'épouvante en disant « Je vais devoir ne plus faire ceci » ? Vous avez établi de longs calculs sur une feuille en indiquant tout ce que vous alliez perdre, tous vos avantages ? Non, pas du tout. Nous en avons accepté des choses. Tout simplement parce que notre vie était désormais présidée par l'amour. L'amour que nous avions pour elle, pour lui. C'est parce qu'il occupait désormais une place importante dans le secret de notre cœur, dans notre intimité, dans notre vie tout entière, que nous avions la capacité d'abandonner ce qui faisait notre plaisir autrefois, n'est-ce pas ? c'est l'intensité de ma relation avec Christ, mon amour pour lui, qui traduisent ma véritable sainteté. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Je pense à ce concierge d'une école qui avait installé un panneau devant l'école qui disait « Défense de marcher sur le gazon ». Rien de tel pour les braves petits-enfants français que de mettre un panneau de ce genre pour qu'ils foulent à merveille, n'est-ce pas ? L'interdit aiguillonne l'envie, hein ? Jusqu'au jour où une classe de quatrième année eut une idée. Elle décida que chaque enfant recevrait un bulbe de crocus qu'il devrait planter le long du trottoir à l'automne. Lorsque la fin de l'hiver approchait, les enfants surveillaient avec impatience les premiers signes du printemps. Quelle puissance ces bulbes cachés avaient pour tenir des dizaines de petits pieds dans le bon chemin. Il y avait les crocus, il y avait la vie. Et c'était la vie qui servait de garde-fou à la destruction. Vous avez remarqué, et nous allons terminer, vous avez remarqué dans Zacharie chapitre 14, cette indication des animaux, des objets qui peuvent être consacrés à l'Éternel. Il est question de clochettes, de chevaux et de chaudières. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux « Sainteté à l'Éternel ». Et le texte indique qu'il s'agit vraiment d'une consécration à l'Éternel. Quand notre cœur est touché, comment est-ce que ça se traduit ? Ça se traduit notamment au niveau des clochettes de chevaux. Et les clochettes de chevaux, c'est le doux coin-coin du klaxon de notre voiture aujourd'hui. Quand la sainteté part de l'intérieur et qu'elle va vers l'extérieur, on ne conduit plus sa voiture de la même manière. Et puis, il est question de chaudière. Ces chaudières dans lesquelles on faisait cuire la viande pour les repas des sacrificateurs et de leurs invités. Ça, c'est la sainteté consécration dans ma cuisine. Lorsque la cocotte minute laisse jaillir la vapeur. Est-ce que sainteté à l'Éternel est écrit sur la cocotte minute ? Sur toutes les casseroles, sur tout ce qui constitue le quotidien de ma vie, dehors, c'est-à-dire dans la voiture, dedans, c'est-à-dire dans ma cuisine. Quel exemple ! Il arrivera un moment, mes bien-aimés, où en terre d'Israël, la sainteté de Dieu sera telle à cause de la reconnaissance du Messie qu'à tous les niveaux de la vie, elle sera vécue sur les chaudières comme sur les clochettes des chevaux. Il me reste, en terminant, parce que nous avons encore du chemin à faire cet après-midi avec la suite du texte, il me reste quand même, en cette fin de matinée, à dire que Daniel, dans son amour pour le Seigneur, il était un bien-aimé du Seigneur, il aimait l'Éternel. Daniel a vécu une rupture radicale. Radicale. Un abandon total entre les mains de Dieu. Voilà ce que Dieu réclame de nous. Est-ce qu'il y a dans nos vies ce caractère radical qu'on retrouve chez le jeune Daniel ? Daniel se détermine. Il se situe clairement, il se singularise ouvertement, il se démarque volontairement. Il n'y a pas chez Daniel de tergiversations sans fin, de valses hésitations. Il y a une prise de position claire, le refus du flou, le refus des manœuvres, le refus du compromis. Mes bien-aimés, nous vivons dans un monde étrangement flou, gris, dans lequel être intolérant n'est plus tolérable. On cultive aujourd'hui, hélas, à perfection l'art de l'ambiguïté. Or, David dit non, Daniel, pardon, dit non, et Dieu avec lui, aux attitudes douteuses, équivoques, caméléon. Daniel me dit une chose ce matin, dans le cadre de ce culte. C'est que des chrétiens sympathisants, ça n'existe pas. De ces croyants qui se tiennent à la lisière de la vie chrétienne. Ils fréquentent l'oasis. Ils y viennent avec un certain plaisir. Ils s'y sentent bien. Parce qu'après tout, ces gens-là sont sympathiques à vivre. On y vit des échanges intéressants. On s'y rend merveilleusement service. Alors il y a comme ça dans toutes les églises évangéliques de France et de Navarre des soi-disant chrétiens, mais des croyants dont on ne sait pas comment les situer. Quand on pose la question, est-ce qu'un tel, il est à Jésus-Christ ou non, le pasteur répond, ben, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il vient depuis longtemps? Oh oui! Puis 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an. Mais on ne réussit pas à discerner vraiment. Il se sent bien et pourtant on a l'impression qu'il n'est pas bien dans sa peau. Il y a ceux qui se tiennent à la lisière parce qu'ils sont de famille chrétienne. Et parce que donc dans la famille chrétienne, on se fait un devoir de se mobiliser, famille tout entière, pour le culte. Mais ils sont à la lisière. Ils ne se déterminent jamais. Et ils jouent de cette manière avec le feu. Je pense à une église évangélique aux États-Unis dans laquelle on se réunissait dimanche après dimanche pendant des semaines et des mois, sans savoir que dans les combles de cette église, là au-dessus, il y avait une jeune fille qui était gardée en otage par des personnes totalement extérieures à la communauté. Cette jeune fille était pendant 4 mois sous le toit de cette église dans laquelle on priait, dans laquelle on louait le Seigneur, jusqu'à ce que la police la découvre. Pourtant, elle n'était pas libre. Prisonnière dans un édifice religieux. Il y a parmi nous des personnes qui sont prisonnières dans cet édifice religieux. On pourrait à la rigueur les identifier quelque peu parce qu'elles se joignent à la communauté, mais en réalité, elles restent prisonnières. Et c'est tragique d'être prisonnier dans un lieu où l'on proclame par excellence un message de libération et de liberté. Dieu veuille alors qu'à la faveur de l'enseignement qui est prodigué, partagé, nous nous laissions toucher dans notre cœur pour vraiment connaître cette transplantation cardiaque qui fera de nous, si nous ne le sommes pas encore, des citoyens de Dieu, des mis à part pour Dieu, des consacrés à Jésus-Christ, sanctifiés, justifiés, innocentés, purifiés, et recevant la force de vivre une vie nouvelle. Mais bien aimé, une question. Savez-vous quelle a été la répercussion de ce choix de Daniel? Daniel a vécu une situation très difficile pendant 10 jours. Nous le verrons cet après-midi.
10 jours très difficiles. 10 jours de bagarre intérieure, d'observation, comme nous le verrons cet après-midi. 10 jours. Pendant 10 jours, Daniel a tenu ferme sur la base de sa résolution de cœur.
Savez-vous quelle a été la répercussion ?
C'est quand même intéressant parce que la Bible nous le dit. Dieu n'a pas voulu nous le cacher. C'est la fin du chapitre 1er, le verset 21. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Savez-vous combien de temps ?
La première année du roi Cyrus, c'est aux alentours de 538 avant Jésus-Christ. Nous sommes en 606-605.
10 jours d'un choix fondamental,
70 ans de conséquences. Vous entendez? Il y a des petits choix qui ne changent pas grand-chose à notre vie. Si vous avez choisi hier soir de vous coucher avec un mouchoir blanc plutôt qu'un bleu pour vous moucher cette nuit, ça n'a pas changé grand-chose.
Il y a des choix déjà plus importants. Mais il y a des choix qui déterminent non seulement la qualité ou la corruption de notre vie à venir pendant notre séjour sur la terre, mais même de toute notre éternité.
J'ai lu l'histoire d'un tribunal de l'Ohio aux États-Unis qui occupe un emplacement unique. Écoutez cela.
Les gouttes de pluie qui tombent du côté nord de l'édifice sont vendues dans le lac Ontario et le golfe du Saint-Laurent. Tandis que celles qui tombent du côté sud vont dans le fleuve Mississippi et le golfe du Mexique. À la pointe du toit, une simple brise peut déterminer la destinée de nombreuses gouttes de pluie. Cela fera, tenez-vous bien, une différence d'au moins 3500 km quant à leur destination finale. Un choix au sommet d'un toit, 3500 km de différence.
Ce n'est que de l'eau. Nous sommes placés devant des choix de vie ou de mort.
J'ai mis devant toi la vie ou la mort
et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives.
Et que ce soit une bénédiction déjà sur la terre, qui va ensuite s'épanouir de manière extraordinaire et parfaite dans le ciel, dans la présence de Christ. Choisir Dieu, souvenez-vous, c'est choisir la sainteté. Mais pour choisir la sainteté, il faut choisir Jésus-Christ d'abord. Recevoir le Saint-Esprit. Et de l'intérieur, tout change vers l'extérieur. Nous voulons prier. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu sais où nous en sommes. Tu sais, toi, si tu as ta place dans notre cœur, si tu es sur le trône ou dans le cagibi, si tu es dedans ou dehors, si notre cœur est un cœur de chair ou encore un cœur de pierre. Tu sais, toi, si le Saint-Esprit est en nous ou non. Tu sais, toi, si la coupe est purifiée par le sang ou non.
Mais Seigneur, au fond de nous-mêmes, nous le savons aussi. Et je te prie de tout mon cœur, en cette fin de matinée, pour que parmi nous, personne ne néglige de faire le bon choix.
Et Seigneur, ne permet pas que nous remettions continuellement, comme si le monde, la vie, l'avenir, demain nous appartenaient. Seigneur, je te le demande de tout mon cœur.
Nous te le demandons, nous qui t'appartenons. Visite par le Saint-Esprit,
ceux qui ont besoin parmi nous de cette transplantation cardiaque. Ceux qui sont dans le flou, dans une sorte de no man's land, à la lisière de l'église mais sans être dedans, qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, comme tu le dis dans ta parole, contrains-les par amour d'entrer en relation avec toi par Jésus-Christ. Nous le réclamons de toi. Tu l'as fait hier soir de manière tellement belle pour plusieurs. Je te demande de le faire à la fin de cette matinée dans d'autres vies qui ont besoin de toi. Nous voulons rester dans la prière comme hier soir. Nous ne regardons pas autour de nous. Vous ne me regardez pas non plus. Je ne suis pas intéressant. Mais nous prions, nous qui connaissons Jésus-Christ. Et j'aimerais, une fois de plus, dans le cadre de cet enseignement, comme je l'ai fait hier soir, donner à quiconque parmi vous, devant un tel message, l'occasion de faire ce choix. Nous ne pouvons pas parler de choix sans que vous soyez invités à faire le choix. Certains l'ont fait hier soir, d'autres bien avant. Et je suis persuadé que Dieu appelle d'autres parmi nous à la fin de ce culte à faire ce choix pour ouvrir leur vie, leur cœur à l'action du sang de Jésus-Christ pour qu'il purifie, nettoie les consciences. Et que le Saint-Esprit puisse s'installer, changer la vie, et que depuis l'intérieur, l'extérieur change aussi. Tournez-vous vers Christ et vous serez sauvés. Alors pendant que nous prions les uns et les autres, comme hier soir, s'il y a quelqu'un parmi nous, jeune ou plus âgé, homme ou femme, jeune gens, jeune fille, qui vraiment veut faire personnellement le choix de Jésus-Christ, qui adhère de tout son être avec ce que nous avons partagé, parce que le Saint-Esprit le lui confirme, alors je lui demande simplement, où qu'il soit, de lever clairement la main, un court moment, pour que je puisse prier ensuite pour là où les amis, comme nous l'avons fait hier soir. Je n'insisterai pas, est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui vraiment veut se tourner personnellement vers Jésus-Christ, pendant que nous prions les uns et les autres, il lève la main bien haut. Je ferai signe que j'ai compris. Cela signifie qu'il se tourne vers Jésus-Christ, qu'il fait ce choix maintenant. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un? Oui, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous pouvez baisser la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre parmi nous? Oui, que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut vraiment se tourner vers Christ? Maintenant, je n'insisterai pas simplement une dernière fois, parce qu'il y a peut-être un combat dans un cœur. L'ennemi conteste, mais le Seigneur insiste lui aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire ce pas à la fin de ce culte, de tout son cœur, simplement, oui, que Dieu te bénisse. Quelqu'un encore? Seigneur, merci pour ce qui est visible de ton action, mais aussi merci pour ce qui est invisible, pour ton travail silencieux dans les cœurs, non seulement dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent, qui te connaissaient pas jusqu'ici et qui ont désiré vraiment se donner à toi, mais aussi dans nos cœurs à chacun, en vue de la sainteté. Bénis les moments qui vont suivre. Prolonge toi-même notre fête. Prépare-nous pour cet après-midi. Garde-nous les uns et les autres. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions de tout notre être, en particulier pour nos quatre amis qui ont pris position, qui ont fait ce choix. Seigneur, prolonge aussi ce choix. Inscris-le dans les racines de leur personne, qu'ils connaissent une véritable nouvelle naissance et qu'ils grandissent ensuite en toi. Garde-les Merci de pouvoir te les remettre simplement. Au nom de Jésus. Amen.